Le chapitre 30 du Deutéronome, c'est que le retour qui s'appelle repentir est entremêlé dans tous les versets du retour géographique. Comprenez? Pachat Nitzavim, Laman. Okay. Alors, quand ils reviennent en repentir, Benigalin et son délivré, Kachelo le avait dans les Korabim, on parle de Dieu, du Dieu des Juifs. Okay. Il lui sera difficile de perdre ses idolâtres, ni peine Israël à cause d'Israël. Alors, quel est ce blocage? Quelle est cette situation? Okay. Et je pense que les rabbins, Rachid compris, qui ont parlé de cela, n'avaient pas identifié qui va être à la place de qui quand il reviendra le qui. Vous avez compris? Et vous voyez, c'est la méthode du Talmud. On va nous décrire des situations. C'est nous qui, pour la première fois, voyons cette situation, qui sommes en mesure de l'identifier. Et là, la Gemara nous a enseigné le caractère impasse, sans solution, de ce qu'on appelle le problème palestinien. Je pourrais vous l'analyser pendant très très longtemps, c'est pas tellement l'objet, mais seulement en exégèse talmudique. Quoi? Ça, sans solution. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qu'on nous a raconté? Il y avait un propriétaire d'un champ qui avait un bœuf. Le bœuf s'est cassé la patte. Bon. Alors, entre-temps, le propriétaire du champ, imprudent, bon, c'est comme ça, il a mis un cheval. Et voilà que le bœuf revient, mon bœuf est arrivé. Ça fait un effet bœuf, d'ailleurs, dans mon nom. Et qu'est-ce qu'on va faire du cheval? Mais quoi, qu'est-ce qu'on va faire du cheval? Où est le problème? Le cheval, le dieu des juifs, il ne tue pas les chevaux. Comprenez ce que ça veut dire? Si c'était les Européens arrivant en Amérique ou ailleurs, bon, il n'y a plus de cheval, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de... Seulement, c'est les juifs, donc on ne fait pas ça. Et on va dire au cheval, tu sais que c'est l'étable du bœuf? Oui, je sais. Alors on partage. Toi, tu prends la moitié de l'étable, ou alors tu rentres chez toi. Eh bien, le cheval ne veut pas. Il dit non, je veux tout. C'est pour ça qu'il y a une impasse. Alors tu veux tout, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut rien faire. Parce que si nous n'étions pas les juifs, il n'y aurait pas de problème. Vous savez très bien. Okay. Seulement c'est le dieu des juifs qui parle là-dedans. Le dieu des juifs a un problème, pas le dieu des chevaux. Vous comprenez? Okay. Et pourquoi il y a un problème d'impasse? Et c'est ça, si vous voulez, mon chidouche dans ce problème. C'est parce que c'est un fait accompli qui est résultat d'un retard. Parce qu'il n'y avait pas eu de retard, il n'y avait pas de problème, ni de cheval, ni de chindor. Ah oui, c'est angoisse des rabbins dans cette semaine. Le vrai problème, et c'est très profond comme souvient, le vrai problème, c'est pas nos difficultés, c'est le fait qu'il y a mauvaise volonté du cheval. C'est ça le vrai problème, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, le monde entier est en transe à cause de ce problème. Il suffirait que le cheval dise, bon, j'ai 22 étables ailleurs, tu me gardes ça pour mes vacances, et puis je rentre chez moi, ou alors je suis chez moi, chez toi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, tiens. Le bœuf, eh bien, le bœuf, il faut s'ingénier pour qu'il reste à l'hôpital. Il y a un hôpital pour le bœuf, enfin, l'exil. Et puis, le cheval. Et Dieu dit, je peux rien. Parce que je suis le Dieu de tous. Parce que je suis le Dieu unique. Et je sais bien que c'est pas le même mérite, je vous disais, mais eux aussi. Mais, mettez-vous à ma place, qui dit. Vous voyez la crudité, la lucidité de cet éclairage des rabbins dans cette souillade, okay, c'est que le thème principal, c'est bien le thème du retard, dès qu'on arrive à le diagnostiquer dans les événements. Alors, je crois, moi, personnellement, que on ne peut pas connaître la suite. La Gemara a intentionnellement mis un point, vraiment. Okay. Ça veut dire, vous savez, quand il y a comme ça, et vous avez suivi la gradation. On est allé de difficulté à difficulté jusqu'à arriver à des moments gigantesques, cosmiques, les anges, le bon Dieu. Et subitement on retombe sur terre. C'est une histoire de champ, un bœuf et un cheval, pas plus. Okay. Vous avez compris le problème. Okay. Et quand il y a un enseignement de cet ordre, il y a une difficulté insurmontable, un point, c'est que la solution est très simple. Seulement, il y a un problème moral. S'il y a une dissymétrie morale, du côté du Dieu des Juifs, si vous voulez. Alors il y a une place. Là, je peux que. Jusque-là, la Gemara, même si nous avons à recoder tel ou tel détail d'interprétation humide, je voudrais, avant vos questions, ajouter une interprétation personnelle. C'est que je crois, et de mon expérience personnelle, c'est que je crois que tant que le monde entier dit aux Palestiniens, entre guillemets, qu'ils sont chez eux en Eretz Israël, ils ne croient pas. C'est quand les Juifs leur disent qu'ils commencent à le croire et que c'est bloqué. C'est une phrase personnelle que je voulais ajouter. Comprenez le problème. Et je crois. crois que ça va dans le sens de l'ensemble de la problématique, et en particulier de cette asymétrie morale, et surtout, et je crois qu'il faut y revenir, le diagnostic de la nature du retard. Voilà, jusque-là, l'exégèse, vous les comprenez quand même un quart d'heure s'il y a des questions.
Je voudrais faire un cadeau. Bien entendu, pas le lire, mais pas l'interprétation de la fantaisie. Moi, ça ne me dérange pas du tout pour la cohérence de Malais de Cotalabonara. Il y a une autre lecture qui est faite par le Homo, un des maîtres de Roche, de ce dernier verset, comme dit le dicton, Cotalabonara, ne mettant pas les sujets. Le peuple pour ses tombes et il conduit le cheval à son état. Voici comment le remourit le verset. Mais lorsque le peuple est tombé, il lui reste encore assez de force pour ramener le cheval dans son état qui est la fièvre.
Bon, c'est effectivement, tu as raison, ça va dans le même sens. Simplement, je vais faire une petite analyse sur la deuxième lecture que tu as citée sur Israël. Je t'avoue d'ailleurs que je n'avais pas l'intention de toucher à cette lecture de Rachid, mais puisque tu l'as citée, c'est ceci. Il faut éviter le thème dangereux des protocoles des sages de Sion. C'est-à-dire qu'en réalité, la famille de nations, c'est le peuple juif qui tire le pistolet. C'est un thème extrêmement dangereux. Mais, vous avez compris ce que je veux dire. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Okay? Parce que finalement, il y a un universel humain qui est occulté, caché, mais où il y a identification profonde entre les mécanismes de l'histoire selon la providence, entre ce qui se passe chez les nations et ce qui se passe dans le peuple. Bon, avec des couches de dévoilement plus ou moins évidents, périphériques. Mais prenons la cohérence de l'analyse, c'est-à-dire quand le bœuf devra revenir dans l'étable, ça veut dire quand le peuple juif doit rentrer en... Il est bien évident dans une lecture profonde, ce consensus d'Égoïm, c'est le consensus d'Israël, du peuple juif. Seulement il a passé à travers les mécanismes de la société contemporaine. Et là encore je crois que, si vous me permettez, mais vraiment sans polémique, une deuxième dimension du sujet, mais qui semble importante. Je crois que si je peux me permettre de définir le sionisme comme étant le seul messianisme cachère, c'est précisément parce qu'il s'agit d'un mouvement historique politique à l'échelle de la nation, et non pas du tout comme un mouvement mystique religieux qui parle d'un messie individuel. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Tous les échecs des mouvements messianiques ont été des mouvements mystiques qui se portaient sur un messie individuel. Le sionisme, en tant que tel, c'est tout à fait autre chose. C'est l'accomplissement des promesses du retour de l'exil en Eretz Israël, les autres étapes, ça vient après. Et je crois que si ça a pu réussir, dans la mesure où c'est réussi, je ne sais pas, là il y a encore un problème d'option, c'est précisément parce que c'est la première fois que c'est un mouvement politique et non pas religieux. Vous voyez tous les malentendus qui doivent être évacués. Parce que cette promesse concernait une nation et pas une communauté religieuse. Il s'agissait de retour en nation, et non pas du tout de retour en phalange mystique. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont retournés dans la bonne foi, dans toutes ces occurrences, on ne parle pas d'une qui est très importante, c'est la ralliade déclenchée par Rachi et les rabbins français du temps de Rachi. On nous dit, si je me souviens bien, 250 familles de rabbins français se sont installées à Haïfa. C'est Haïfa ou Jaffa, pardon. Hein? À Rabbi Hiel, oui, mais... Et vous savez que Rachid a pris son bâton, on ne sait pas où Rachid est mort. Il y a une tradition, je ne sais pas si c'est une légende, qu'il est allé en Eretz Israël, il est mort en route, on ne sait pas. Mais imaginez le bruit que ça peut faire en ce temps-là, c'est à Jaffa, hein, pas à Haïfa. 250 familles de rabbins français qui sont installées avec leurs livres en Eretz Israël, le peuple n'a pas suivi. Le peuple n'a pas suivi, ils ont fondé une yeshiva. Bon, ça ne veut pas dire que leur retour n'était pas cachère. Ils voulaient retourner du retour de la nation d'Israël. Mais ça s'est fait par un biais religieux, mystique, la nation n'a pas suivi. Et je crois que c'est cela que le Rav Kook nous a aidé à comprendre. Je ne vous cache pas, et je vous le dis vraiment comme c'est, pendant toute une première partie de ma vie, j'étais de la thèse opposée à la mienne. Parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, Et je restais fidèle à la fidélité de 2000 ans, que tant qu'on ne veut pas le Messie, il n'y a rien de fait. Bon. Et puis c'est quand j'ai appris que le Rav qui m'a appris à diagnostiquer, je ne sais pas comment dire, la relation entre les événements et le contenu des textes, que c'est, et ça a pris du temps, que c'est dévoiler cette option préalable dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je pense que vous avez certainement diagnostiqué cela vous-même. Là, je crois que notre différence, ce n'est pas tellement une différence de tempérament individuel seulement, de romantisme d'un côté et de lucidité de l'autre, on pourrait l'inverser d'ailleurs 14 fois. Oui. Je crois que c'est le résultat de la cristallisation des deux traditions, Sfarad et Ashkenaz. Et sur ce point, que je vais essayer de décrire très, très rapidement, l'opposition au sionisme de la part du rabbinat est venue du rabbinat Ashkenaz. Et non pas du rabbinat Sfarad, mettez-vous, il y a trois générations. Parce qu'ensuite ça a changé, j'essaierai d'expliquer pourquoi. Parce que la problématique de la tradition concernant ces problèmes dans le monde ashkénaze était précisément celle-là. Une sorte d'impasse, a priori, sur des aventures genre retour d'Ezra et de Néhémie. On a vu que ça échoue, on attend le Messie de la fin des temps. Et jusque-là on dit non, on sait que ça échoue. Ça, je me fais l'avocat, si vous voulez, de la thèse ashkénaze. D'autant plus que c'est la thèse que j'utilise, je vais l'utiliser sous forme de postulat. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, j'en ai parlé mardi soir dernier, pour improviser comme on m'avait demandé de faire, et je reviendrai d'ailleurs sur le verset que j'ai étudié à ce moment-là, je crois que ça vaut la peine de le reprendre. C'est ceci, c'est que l'origine des communautés ashkénazes constituées, à l'origine, c'était des communautés de l'exil du premier temple qui n'étaient pas revenues au deuxième. Et déjà leur attitude sur ce problème était, nous avons vu l'échec de la tentative politique d'un État juif, c'était l'État du premier temple, et bien c'est plus pour nous, ça c'est les Goïm qui mèneront l'histoire politique jusqu'au Messie de la fin des temps. Il faut comprendre la ferveur avec laquelle, l'impétuosité avec laquelle le sionisme a été refusé dans ces milieux rabbiniques du monde ashkénaz, d'autant que ce sionisme apparaissait avec le visage de brigand anti-juif par rapport à la Torah. C'est clair. Alors dans le monde sfarad, la réaction était tout à fait autre. Dès qu'on a commencé à recevoir les titrons bleu et blanc, et on commençait à chanter le Rodou Hachem Kitour de Pessah sur l'air de l'Antique Va. Naïvement, vous allez me dire, les Sfaradim n'avaient pas d'éducation politique. Non, c'était plus profond que ça. Okay. Et pourquoi? Parce que les Sfaradim, dans leur communauté organisée, sont les descendants de la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà sionistes dans le principe au temps du deuxième temple. Cette bifurcation de l'exil s'est éclatée là, et ensuite il y a eu des brassages de population partout. Vous savez par exemple que je descends d'un Ashkenaz. Il y a trois siècles, un Ashkenaz qui s'est installé en Algérie, très exactement à Tlemcen, quand il est arrivé, on l'a appelé l'Ashkenazi, le nom nous est resté. Trois siècles, ça nous a rendu ce paradis, mais je crois que les racines d'identité plongent toujours très loin. Je suis tout à fait à l'aise chez les Ashkenazim comme les Sfaradim. Seulement, je suis Sfarad, mais je m'appelle Ashkenaz. Et là, il est arrivé d'ailleurs que de notre temps, eh bien finalement, pendant longtemps, on savait qu'on était Ashkenaz d'origine. Ashkenaz, pour nous, ça voulait dire allemand. Sauf si on peut souvenir de famille reconnue, il s'agissait d'un Polonais quand même. Et alors, là, très souvent, quand je vais ou je pars du côté de Shabbat, je me fais interpeller en yiddish, et il paraît que j'ai l'apparence, je ne sais pas moi, d'un juif polonais, c'est possible. Rassurez-vous, c'est aussi des juifs. Et je dis ça en passant. Et alors, quand je dis en toute bonne foi que je ne comprends pas l'yiddish, on croit que je suis Sfarad anti-Ashkenaz. Tout simplement, je ne comprends pas l'yiddish, je n'ai pas eu le temps de l'apprendre. Mais ma femme comprend l'yiddish. Vous comprenez donc. Alors, en tout cas, pour revenir à notre problème, ça c'était à l'origine, lorsque le sionisme est apparu. En grande majorité, les rabbins ashkenaz ont dit non, on sait de quoi il s'agit, l'hérésie par excellence, on attend le Messie de la fin. L'immense majorité des Sfaradim ont dit ça y est, ça y est. Bon, sauf ceux qui étaient de culture occidentale et qui connaissaient déjà les catégories européennes. Mais vous savez très bien que viscéralement, la masse des communautés sfarades, le Yémen en tête, a dit on a entendu dire que, yallah, Jérusalem. Bon. Et puis, le temps a marché un peu depuis trois générations. Et les Ashkenazim qui ont appris chez les Sfaradim se sont sionisés. Et les Sfaradim qui ont appris chez les Ashkenazim sont devenus antisionistes. Parce que déjà, nous sommes mélangés. Bon, c'est des grandes directions que je vous donne là, très très globales, mais ça peut vous faire comprendre que cette problématique, elle a été ce qu'elle a été, et qu'en fin de compte, étant donné que les structures politiques du monde juif reliées à l'humanité universelle, ça se passait en Europe, enfin dans la situation occidentale et pas dans les pays de l'islam, nous sommes arrivés au rendez-vous avec ce retard dont je vous ai parlé. Je pourrais encore citer 1000 textes là-dessus, mais je crois que c'est suffisamment centré. Tout ce dont je voulais parler, c'était surtout de cela, en reliant avec les événements terribles de la Shoah. En ce sens que, bien que dans l'événement, c'est quelque chose de radicalement nouveau qui fait irruption dans l'histoire, l'éventualité que ça risque de se passer comme ça était déjà connue dans l'angoisse des maîtres. Bien, voilà grosso modo ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, on peut encore rester là. Pardon, chacun son tour. Plus fort.
À la phrase de
Ouma.
Ça a été cité le mot Ouma.
Oula.
Ah, oula, oula.
La question, voilà. Je suis restée en face par rapport au problème que pose la phrase et par rapport à le rapport, l'explication qui a été donnée par rapport à l'ampleur du problème. Puisqu'en fait, cette affirmation est contradictoire. À la fois, désir que c'est, et en même temps, il désire ne pas être là, ne pas le voir. Alors, c'est le problème, parce que déjà, cette phrase produit un retard.
Alors écoutez, je crois que la seule, point par point, la seule réponse que je pourrais donner, celle que qui m'est accessible, c'est celle-ci. Nous ne pouvons pas faire l'analyse des conditionnements de pensée de Roula, mais comprendre objectivement le contenu de sa formule confronté aux événements dont il est parlé. Je crois qu'énormément de juifs contemporains, pris de ce désir de rentrer en Israël, sont bloqués par ces problèmes-là que la Gemara a énumérés, donc il n'est pas étonnant de trouver ce blocage chez Roula lui-même. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ah, je crois que ça veut dire la première chose. Quand il dit que je ne le vois pas, ça veut dire que je ne sois pas en ce temps-là. Il me semble que c'est ça. Okay.
Juste voilà, parce que des juifs qui sont partis, vous n'avez pas pu avoir cette interprétation, il y a peut-être une chose qui est que nous sommes peut-être des soumis,
Alors là, c'est une deuxième période. C'est un autre problème. Non, je l'identifiais d'abord.
Le point le plus important, c'est à propos d'une attitude comme ça, globalement, en face de la situation de notre époque. Tu as dit, en rappelant l'histoire de la sortie d'Égypte des pharaons, qu'il y a quelque chose qui doit se passer au niveau des nations, et tu as évoqué la déclaration de Macron en disant que c'était ça. Et au moyen d'emploi, étant donné que ça a été fait, les gens sont ouverts, que c'est moi, et bien il y a qu'à venir. Bon, et comme les gens viennent là, on est forcé de faire un peu comme vous faites, c'est-à-dire de faire appel à des notions comme la morale, ou le devoir, ou les responsabilités, ou simplement la vision claire des choses. Et c'est un dialogue de support qui risque de se perpétuer.
Absolument.
Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses, une autre analyse, et je sais que tu ne l'acceptes pas, mais je ne peux pas m'empêcher de l'appeler, c'est que peut-être cette chose, cette clé, cette porte, il y a un acte politique, socio-politico, historique, culturel, tout ce que tu veux à faire maintenant, qui fera que ces juifs dont je suis ne peuvent pas, en fait, si tu analyses, tu peux donner toutes les raisons que tu veux, mais c'est parce que tu es en fait la réalité, c'est qu'on ne peut pas, pour des tas de raisons qui sont très très variables pour tout le monde, et moi je crois que c'est tactiquement, si tu veux, on ne doit pas dire. Vous devriez, il faudrait faire un effort. Il y a des actes, une analyse de la situation et des actes à faire pour les responsables qui doivent jouer à d'autres niveaux. Aujourd'hui, je parlais des femmes, je parlais de tout ça, mais je sais qu'en faisant certaines choses, la situation se développera, tout deviendra clair, et même l'histoire du bœuf et du cheval. Et mon problème, c'est comment se fait-il que peut-être c'est pas pensez-vous que quand des gens évoquent comme ça des possibilités d'action à un niveau très important, on leur dit oui, c'est bien gentil, c'est très intéressant, et puis au revoir.
Bien. Voilà mon... D'accord. Je vais te dire, je suis d'accord avec ton analyse en tant qu'elle est la tienne, elle est cohérente. Et je la comprends. Et je regrette de ne pas avoir la mémoire, elle est un peu fatiguée après 2 heures, de toutes tes phrases pour les utiliser aussi, d'ailleurs, les formules. Et on aurait dû enregistrer. Simplement, je vais mettre en évidence deux ou trois points en partant de la fin. D'ailleurs, ces programmes d'action qu'il faudrait faire de façon à débloquer les situations, celles-là y comprises, bon, tu en as parlé de façon allusive. Et je reviens sur un point. L'exemple que j'ai pris chez le pharaon. Et là, il faut revenir à la réalité concrète, être réaliste. Le pharaon, pardon ? Bon, c'est un problème intérieur, mais je vais d'abord globaliser. Le pharaon a fini par donner le feu vert, dans les difficultés que vous savez, les diplèves et les travaux. Et après, il s'est ravisé. Et c'est devenu très difficile de le faire quand même. Parce qu'effectivement, il s'est ravisé. Bon. Et ça a dû être fait contre. Alors, qui a dit que ça devait, que c'était sans difficulté? Personne n'a dit que c'était sans difficulté. Et toutes les difficultés qui nous sont racontées dans les contestations épouvantables que Moïse a reçues dans la marche au désert pendant 40 ans. Et je crois que la... Une minute. D'autre part aussi, le deuxième modèle qui nous est donné avec Cyrus. Eh bien, l'instance politique, c'était Cyrus de Perse. Très rapidement, c'est l'Empire grec qui s'est installé. Et disons, celui qui s'est ravisé par rapport à la décision de Cyrus, c'est pas Cyrus lui-même, c'est les Grecs. Et les difficultés ont commencé, et puis Rome s'est jetée là-dessus. De notre temps, il y a une espèce d'éclair d'ouverture. Et puis d'accord, ça s'est refermé, les nations ne veulent pas, les Russes ne veulent pas, mais quelque chose a passé là. Je crois que, et moi personnellement, je ne dirais pas ce qu'il faudrait faire. Et même si je le dis, c'est un pas. Non. C'est mon témoignage d'existence qui dit ça. Bon. Et même si je le dis avec des mots, c'est des mots. C'est clair. Et c'est pourquoi j'ai parlé, et je crois que vous avez bien fait de m'obliger à le faire, d'une espèce d'engagement a priori de l'option, et ensuite on discute des détails. Et moi, je ne donne pas moins des explications à ceux qui ont des explications à donner, je les laisse parler, c'est leurs explications que j'entends. Tu comprends ce que je veux dire? Et effectivement, c'est leurs explications. Je crois qu'il y a une différence de niveau radical. Au niveau des difficultés, chacun peut avoir une problématique d'explication et de dire, on est bloqué par ça, ça c'est difficile, je prendrai l'exemple du deuxième Israël, parce qu'il est important. Mais c'est second par rapport à l'option globale. Parce que vous n'avez aucune idée des difficultés qui consistent à être israélien. Ça ne veut pas dire que c'est sans difficulté. Mais ce ne sont pas les difficultés des juifs en tant que juifs. Ce sont les difficultés d'hommes qui sont Israël. Non, je me suis mal exprimé. Il n'y a pas de difficulté à être juif. Les problèmes de la difficulté à être juif se normalisent là-bas. Mais il y a des difficultés à être homme là-bas. C'est un autre niveau. Et je crois que tu as raison de dire, ce n'est pas des séquences massives irréversibles. C'est des processus en dynamique. Okay. Mais je crois que quelque chose est passé dans l'apparition du processus dynamique lui-même. Quelque chose de radicalement autre que ce qu'il y avait pendant 2000 ans. C'est ça que je voulais signaler. Et je vais vous dire, vous savez très bien que les rabbins, fidèles à la tradition, en ont tous ces problèmes qui consistent à risquer de désigner des ultimatums d'identité, en réalité une patience colossale. Chacun son rite, chacun son chemin. Je vous dis comment dit l'Ecclésiaste, Hanoch lanahar le fi darko, vegam ki yaskin le yasur imenu. Ça veut dire chacun a son chemin à lui. C'est pas ça le problème. Je vous dirai plus. Pas seulement mon cas personnel, tous les Israéliens, sauf une poignée de juifs palestiniens, comme on disait avant à travers les siècles, sont tous des juifs de la Gola qui sont revenus à un moment ou à un autre. Et c'est leur problématique personnelle. Donc il y a de l'espoir pour tout le monde. Mais, c'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude, c'est est-ce que nous avons le temps d'attendre? Des deux côtés. Est-ce que nous avons le temps d'attendre? Ça pourrait être formulé de mille manières. Le fait qu'il faut attendre jusqu'à ce que Dieu décide par sa main de prendre la main de chacun, comme on l'a vu dans le verset de Rachid, vous vous rappelez de l'autre verset, c'est légitime absolument. Dans ma vie personnelle, c'est arrivé à un certain moment. Et j'aurais pas l'outrecuidance de dire qu'à partir du moment où ça m'est arrivé, tous les autres sont disqualifiés, parce que juste le moment d'avant, j'étais disqualifié avec eux. Vous comprenez le problème? Ça, c'est clair. L'inquiétude que nous avons, et là je parle un peu plus en tant que rabbin qu'en tant que star sioniste, c'est est-ce que les événements vont nous laisser le temps? Moi, j'ai l'impression d'une accélération des événements des deux côtés, et qui risquent, eux, les événements, de créer une cristallisation. Alors, c'est important qu'il y ait des ponts, ne serait-ce que des ponts de discours, qui se produisent. Je dois vous signaler d'ailleurs que, je ne voulais pas le faire, mais enfin, je le dis quand même, puisque les questions sont posées, je me propose de demander à Rachid une année sabbatique, et ne pas revenir du tout pendant un an. Et puis, on donnerait rendez-vous dans un an, ok? De telle sorte de pouvoir disposer d'un vocabulaire plus dépassionnalisé, comment dire, de plus épuré, comme, c'est-à-dire de parler en hébreu, d'un traduit en français, mais pas de parler en judéo-français, vous comprenez ce que je veux, du point de vue sociologique. Bon, ça ne se relie pas du tout au sujet du séminaire, ça se relie aux étapes, des périodes de ma vie, c'est un autre problème. Bon. En tout cas, pour revenir à l'autre point, je crois qu'un Israélien n'a rien à dire du point de vue réclamation, revendication, interpellation. Il suffit qu'il soit là, dans sa situation existentielle, pour que l'interpellation apparaisse. Mais il faut en tenir compte, c'est la réalité qui est comme elle est. La question du deuxième Israël, je ne faisais pas du tout allusion à ce niveau du problème. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il y a un problème sociologique. Des, disons, j'aime pas du tout ce vocabulaire-là, mais disons des masses parades, et c'est pas tellement les Nord-Africains, sauf les Marocains, et pour des raisons historiques et politiques très précises, c'est surtout ce que nous appelons les Radot Hamizrach, c'est-à-dire les communautés des pays de l'afro-asiatique, mais vraiment afro-asiatique. Parce que les Juifs Nord-Africains, dans leur grande majorité, surtout Algériens et Tunisiens, l'élite marocaine, mais pas les Marocains en général, c'est pour une telle masse du peuple marocain en Israël, c'était occidentalisé déjà. Et par conséquent, il était déjà de problématiques ashkénazes dans le problème que j'ai posé. Alors, ensuite, il y a eu un problème interne à la société israélienne contemporaine, qui est le problème sociopolitique des Sfaradim en Israël. Le mot de Sfarad n'étant pas approprié, comme vous le savez, il faudrait dire des Edot Hamizrach. C'est un problème second, qui est important en lui-même, qui est grave, qui risque peut-être, je ne sais pas, de faire capoter la société israélienne, ça risque d'aller jusque-là, quoique ça commence à un peu s'améliorer. Mais qui n'est pas du tout au niveau, qui ne grève pas le projet sioniste comme tel. En ce sens que c'est l'affrontement des deux parties du peuple. Et cet affrontement n'est pas, encore une fois, au niveau juif. Il est au niveau de l'insertion à l'universel humain par les cultures d'empreintes du temps de l'exil. Je vais essayer de schématiser cela. Et je veux dire pourquoi c'est grave à mon sens. Parce que plus on passe dans l'échiquier politique, des moins religieux aux plus religieux, et plus ce conflit est grave. Ça a l'air d'être paradoxal. Okay. Chez les juifs assimilés, il existe en Israël ce conflit national. Mais moins grave dès qu'on monte dans les degrés de l'engagement dans la Torah. Alors là, c'est la cassure, absolue. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est grave, parce que c'est vraiment deux typologies juives qui s'affrontent dans leur authenticité. Et qu'est-ce qui s'affronte? C'est pas le juif avec le juif, c'est le goy qui est derrière. C'est la problématique goy qui est derrière. Je ne sais pas vous dire ça sous forme d'image. Quand un juif polonais est aux prises avec un juif marocain, okay, eh bien c'est pas le juif et le juif, c'est le polonais et le marocain. C'est un problème messianique à l'échelle universelle qui se pose là, et qui est grave parce qu'il est à ce niveau-là. Vous comprenez? Je crois qu'à ce niveau-là, en tout cas, c'est plus une problématique diaspora Israël. C'est une problématique sociologique intérieure à la société juive de lutte des classes. Ici, ce sont des communautés qui font place. Vous comprenez? Et donc, ça doit se traiter en soi. Mais je crois que le problème global du projet sioniste est beaucoup plus colossal que ça. D'autant plus que ce problème existe à l'intérieur du monde ashkenaz et à l'intérieur du monde sfaradim. Il n'est pas seulement sfaradim pur et ashkenaz pur. Les ashkenazim entre eux, les sfaradim entre eux, à beaucoup de niveaux, ont ce même problème intérieur. C'est-à-dire, mille manières d'être homme se sont confrontées d'un coup dans un type de municipalité de creuset de laboratoire. Et ça fait du bruit, parce que ce sont les hommes qui se rencontrent, les hommes, je veux dire, les nations qui allaient. Mais, à un certain niveau, on comprend que ce sont des difficultés graves, mais secondes. Le vrai problème, c'est le juif qui redevient hébreu. Redevenant hébreu, il retrouve le conflit des tribus. Chaque tribu reflétant une manière d'être homme, globale, compacte. Ici, par exemple, au niveau de la société française, des juifs de France, le problème est artificiel. Parce que c'est un problème d'affrontement pour savoir qui sera président ou le vice du président. C'est pas un problème de société ici, c'est un problème de communauté artificielle. Parce que les juifs sont en compétition au sein de la cité française au niveau socio-économique et pas au sein de la communauté juive. Vous comprenez? Alors c'est un problème grave pour la sensibilité, mais il s'agit de savoir qui occupe quelle place dans quel banc à la synagogue ou ailleurs. Bon. Mais le vrai problème est là-bas, il n'est pas ici. D'autant plus que ce que je dis est très global et très schématique. Je crois que l'option des Sfaradines qui sont arrivés en France, c'est que leur descendance sera ashkénaze. Il faut ouvrir les yeux. C'est une terre ashkénaze. Dans le sud de la France, on pourrait discuter, parce que c'est l'Occitanie. Okay, mais finalement, l'Occitanie n'existe pas. C'est la France, même en Occitan. Okay, vous comprenez le problème. Et il y a là, si vous voulez, une option que les familles Sfarades ont faite en adoptant la culture occidentale, en décrochant de la culture orientale. Ils ont adopté le style ashkénaze du judaïsme. C'est très schématique ce que je dis là, mais je le vis très intensément. Vous comprenez le problème. Tandis que, en Israël, c'est vraiment l'affrontement des deux identités nues. Et donc, c'est un problème important et grave. Mais, si nous faisons une statistique très schématique, les statistiques, comme vous savez, dans ces problèmes-là, sont toutes mensongères. Mais enfin, globalement, il apparaît quand même une idée. Dans l'analyse de la guérilla, eh bien, les deux facteurs de la guérilla, c'est ceux qui sont travaillés par la nostalgie d'une promotion sociale et économique en pays d'Occident, et ceux qui sont non-sionistes religieux. Il n'y a pas de guérilla chez les sionistes religieux. Il y a des cas particuliers de voyage nécessaires. Mais ce n'est pas guérilla mamage. Là où il y a guérilla vraiment, c'est soit chez les ashkénazim, ceux qui n'ont plus l'idéal du sionisme de la Torah, et qui sont déçus par l'absolutisme vide de Torah et les problèmes que ça pose, et les difficultés qu'il y a dans la société, et à l'extérieur, la guerre et tout ça, soit des juifs, Sfaradim et d'autres misrach, qui n'ont pas eu ce voyage de promotion socio-économique en Occident, et qui en sont frustrés. C'est encore schématique, mais c'est cela. Je crois que tout ça est très grave comme problème. Il y a un projet messianique qui se cherche dans la solution de ces problèmes. Mais ça ne porte pas au niveau du projet sioniste en tant que tel. Voilà grosso modo ce que j'ai essayé de dire. Sur ce point, je ne sais pas si c'est suffisamment satisfaisant, mais dans la mesure où il s'agit d'avoir le sentiment qu'on est en voyage, qu'on est sur des valises, mais qu'on veut entrer par sa porte, c'est tout à fait légitime. Seulement, la question que je voulais poser, c'est est-ce que... J'allais dire, les Russes nous en laisseront le temps, les uns et les autres. Est-ce que les événements nous en laisseront le temps? Ça, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de faire la prospective. Nous ressentons ça sous forme d'émotion, d'inquiétude. Il n'y a pas d'analyse, ça serait du faux prophétisme, ça serait du pseudo-messianisme. Vous connaissez tous ces problèmes-là. Simplement, vous me permettrez de citer, pour ceux qui n'étaient pas là, mardi soir. Et je veux dire, comme vous savez, je suis arrivé très, très fatigué d'Israël, et puis j'ai trouvé un programme auquel je ne m'attendais pas très exactement. Bon, donc, vous comprenez. Et alors, j'ai interprété la première partie d'une des brachot de la Tfila dans le rite ashkenaz, en citant l'enseignement de M. Neher, qui nous avait dit plusieurs fois le Yom HaAtzmaout, à travers lequel il racontait l'histoire de sa propre vie d'ailleurs. Et je crois que c'est suffisamment exemplaire, il me semble, pour être assez universel comme expérience. La phrase de cette bracha, c'est « Veliru shalaim ichra berachamim tashuv ». Et après, vous voyez la suite du programme. Mais d'abord, il y a cette première phrase qui n'est pas dans le rite sfarad. Vous devinez pourquoi? Parce que les sfaradim étant à Jérusalem n'avaient pas à dire « Veliru shalaim ichra berachamim tashuv ». Et ils parlaient du trône de David, mais pas du retour dans la ville. « Betishkon, betocha, vechenam ». Alors, une première lecture que je traduis est où le juif, dans sa prière, s'adresse à Dieu en disant « Et à Jérusalem, ta ville, reviens avec miséricorde. » C'est la kavana de prière, le pshat. On s'adresse à Dieu, on dit « Reviens à Jérusalem, ta ville. » Et puis ça durait longtemps, 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 et il ne revenait pas. Deuxième phase, deuxième séquence. Là, on a appris qu'on pouvait envoyer des juifs à Jérusalem. Pas aller, envoyer des juifs, qui n'avaient pas de patrie ailleurs. Alors là, c'est un juif, il s'adresse à un autre, et qui lui dit, je t'en prie, Berachamim, Benirushaim Echa, Tashu, retourne à Jérusalem, ta vie. Et le deuxième. Et puis, jusqu'au moment où, et on pourrait identifier ça dans l'histoire des communautés, okay, jusqu'au moment où on prend conscience qu'il faut se parler à soi-même. Alors ça, c'est la troisième séquence, quand on se dit à soi-même, Benirushaim Echa, Berachamim Tashu, à Jérusalem, ta vie. Très bien. Je t'en prie. Voilà, je m'arrête là, je vais poser. On m'a demandé de vous annoncer, enfin de vous rappeler.